une fois pour toutes. Une émission proposée par la Concertation des Églises Chrétiennes de Liège.
Amis auditeurs, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Léonard Juanindo. Je l'avais déjà reçu dans l'émission précédente, mais malheureusement, nous n'avions pas pu aborder toutes les facettes du sujet. Léonard Juanindo qui a écrit un livre sur l'histoire de la présence protestante belge au Rwanda pendant la période allant de 1908 à l'indépendance. Et avec son aide, nous continuons à essayer de découvrir cette page d'histoire du Rwanda et certains effets que le colonialisme a pu générer pour les peuples africains. Léonard Juanindo, bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc reprendre cet entretien que nous avions commencé précédemment. Avec votre livre, nous avions abordé toute la partie de départ de l'implantation, en quelque sorte, du protestantisme au Congo et dans cette région des Grands Lacs. Et puis, nous voulions aborder aussi les responsabilités, ou en tout cas le rôle qu'ont joué les églises dans la dimension qui a mené au génocide. Nous avons évoqué dans l'émission précédente le rôle des missionnaires qui ont quelque part entretenu ou laissé disons utilisé aussi cette idée que pour avoir le Rwanda il fallait avoir les Tutsis et que c'était une société qui fonctionnait totalement par rapport à la distinction ethnique. Et puis nous étions arrivés au moment où justement avec l'indépendance il y a cette espèce de retournement complet de situation, un retournement qui a commencé quelques années auparavant si je ne me trompe, avec tout d'un coup ce changement et cette mise en avant de l'appui plutôt à la population hutue. Alors, dans cette situation-là, comment est-ce que les églises vont se situer et vont peut-être changer en quelque sorte leur fusil d'épaule, si on peut dire ça comme ça?
En fait, sans accuser qui que ce soit, il faut dire quand même que les missions catholiques étaient beaucoup plus fortes. Et qui étaient aussi beaucoup plus liés quand même au gouvernement, ont une influence beaucoup plus importante aussi comme dans la matière. Et les protestants ont été pendant longtemps comme marginalisés par le gouvernement, parce que à la fin de la Première Guerre, la Belgique va hériter de Versailles, le Rwanda et le Burundi. Et à ce moment-là, le Rwanda devient un pays sous mandat. Et un pays sous mandat signifie que celui qui reçoit ce pays-là par ce qu'on appelle la Société des Nations devait rendre les comptes à la Société des Nations. Et les comptes que le responsable, je dirais colonisateur, devait rendre, c'était qu'il devait assumer le développement du pays, construire des écoles, des hôpitaux, tracer des routes, etc.
C'était très positif tout ça.
Tout à fait. Et le gouvernement belge n'avait pas assez de moyens pour faire ce travail. Il fallait s'appuyer sur les gens qui ont des moyens. Et les gens qui avaient des moyens, c'était des églises. Mmh. Entre autres, l'église catholique qui avait assez de professeurs qui avaient en tout cas de l'expérience au niveau des hôpitaux, au niveau de l'enseignement, etc.
Qui étaient déjà actifs au Congo depuis très longtemps.
Voilà, tout à fait. Et à ce moment-là, le gouvernement belge étant dans une position de faiblesse, je dirais matériellement, a laissé faire. Et c'est ainsi que l'Église qui était portée par la séduction des Tutsis va trouver de l'espace pour faire ce travail-là et va influencer aussi le gouvernement, même à épouser aussi cette dimension aussi ethnique. Parce que le gouvernement avait voulu quand on fait une réforme en 1923 pour justement donner l'espace aussi aux Hutus, mais sous l'influence de l'Église, cela n'aura pas lieu.
Quelle était la justification que l'Église trouvait pour pouvoir appuyer cette distinction? Et qu'est-ce qui va amener au fait qu'à un moment donné, elle va changer son fusil d'épaule et passer d'un soutien, j'ai du mal à employer ces mots-là, mais à l'ethnie Tutsi, pour le faire glisser sur celle des Hutus? Il y a vraiment à un moment donné un renversement complet. Alors qu'est-ce qui avait justifié la première vision? Et puis qu'est-ce qui va amener l'Église à se dire non, finalement, ce n'est pas une bonne approche, changeons notre fusil d'épaule et appuyons-nous maintenant sur l'autre camp, dirais-je?
Cette question est une question très intéressante et vraiment que je voudrais demander aux gens de creuser, de lire, de chercher, parce que c'est une utilisation qui est basée sur la conception de la mission. À ce moment-là, l'Église catholique, entre autres, a une conception missionnelle qui dit que c'est lui qui a la tête, a le corps. Donc, il faut passer par le chef pour avoir la population. Et c'est ainsi que celui qui gouverne le Rwanda jusqu'en 1959, c'est le Tutsi. Donc il fallait composer avec lui. Et si une fois qu'il est converti au christianisme, sa population aussi est supposée être convertie. Mais le vent de l'indépendance qui intervient en Afrique en 1959-60 va montrer qu'il y a un changement inévitable parce que la majorité Hutu va réclamer. Les gens qui avaient été formés dans les séminaires, mais aussi quelques petits protestants aussi, vont quand même commencer à réclamer le changement. Et là aussi, il fallait continuer avec l'idée de la tête. Hein, celui qui a la tête a le corps. Voyant que le changement allait s'opérer vers les Hutus, il fallait aussi les soutenir. Et c'est ainsi justement que chaque fois, l'Église va mener ce combat-là parce qu'elle va se situer dans cette conception de la mission de dire qu'on ne peut évangéliser un pays qu'en passant par le chef de ce pays.
Oui, mais ça donne, excusez-moi de vous interrompre, mais ça donne une idée assez cynique de la démarche. Or, je crois savoir quand même que l'Église, qu'elle soit d'ailleurs catholique ou protestante, les Églises ont commencé à revoir un petit peu cet appui inconditionnel à l'élite Tutsi, bien avant l'indépendance. Donc, quelque part, est-ce qu'elles n'ont pas induit ce qui va arriver à l'indépendance? C'est-à-dire qu'elles vont, à un moment donné, former de manière systématique et volontaire, et volontariste, dirais-je, la population, ou tout, pour qu'elle ait ses élites. Est-ce que c'est une erreur de penser cela?
Non, c'est une question aussi intéressante, aussi parce que ça dépend aussi d'où venaient les missionnaires. Si on va au cas de Rwanda, à un certain moment, les missionnaires catholiques qui vont au Rwanda, c'était surtout les Flamands. Mm-hmm. Et ces missionnaires flamands vont se retrouver vraiment dans la position de souffrance des Hutus. Ils estiment que ici, les Flamands ont été opprimés pendant longtemps par les Wallons. Et se retrouvant sur le terrain au Rwanda, ils se sont retrouvés vraiment dans la peau des Hutus.
Donc ils ont transposé en quelque sorte une souffrance qu'ils éprouvaient au niveau national belge dans la colonie.
Exactement. Ou en tout cas dans le protectorat. C'est là qu'ils vont commencer déjà à former les Hutus dans les séminaires. Mais aussi, il faut aussi dire qu'il y avait aussi une sorte de compétition aussi dans les relations missionnaires. Parce que la plupart des Hutus qui se voyaient un peu discriminés allaient fouiller vers le missionnaire et les protestants ouvraient largement les portes. Et là, cela a inquiété beaucoup les missions catholiques et qui se disaient « il faut faire attention, il faut aussi nous approcher de ces gens-là parce que c'est quand même la majorité dans le pays ». Voilà, donc il y a cette ambiguïté-là qui dit « celui qui a la tête a le corps ». Mais aussi, il y a l'idée aussi de dire, nous devons aussi travailler vers là, parce que c'est quand même la majorité aussi du pays de demain.
Nous faisons une petite pause musicale et nous retrouvons tout de suite après. Vous écoutez RCF, la radio dans l'âme, au micro Vincent Tonon et Léonard Juanindo, avec lequel nous découvrons l'histoire de la présence protestante belge dans la région des Grands Lacs et en particulier au Rwanda. Alors, juste avant notre pause musicale, nous évoquions donc le rôle de l'Église, des Églises, dans cette distinction ethnique entre Hutu et Tutsi et cet appui inconditionnel au départ auprès de l'élite qui dirige le pays et qui est Tutsi, et avec l'approche de l'indépendance et l'idée que manifestement le pouvoir va changer de camp, eh bien se transfère vers l'autre groupe et tout ce qui va s'ensuivre. Alors, c'est une période évidemment très difficile, on a du mal à aborder ces sujets parce que tout cet aspect est toujours très délicat, les séquelles, on les connaît, les séquelles, c'est le génocide de 94. Et on peut se poser la question aussi de savoir quel est le rôle, comment est-ce que les églises ont été entraînés dans ce processus. Donc nous sommes arrivés à la période de l'indépendance, le changement de pouvoir, la population majoritairement hutue récupère le pouvoir, je dirais par voie démocratique, par la voie du nombre, et on sait qu'on... Bon, à ce moment-là, on ne le voit pas, mais maintenant, on sait que c'est déjà à ce moment-là que commencent à se mettre les prémices de ce qui va déboucher sur le génocide qui n'est qu'un aboutissement, parce qu'il y a eu des tas de persécutions entre cette période-là et le génocide de 94. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette période-là ?
Je pense que cette période-là, c'est une période sans porter accusation à quiconque, mais qui va montrer quand même... la faiblesse de l'Église. Quand je dis l'Église, je veux bien dire aussi bien l'Église catholique que les Églises protestantes. La faiblesse de l'Église est parce que, moi, j'estime en tout cas, je le dis aussi dans ce livre, que le Rwanda a raté une chance. En 59, c'était vraiment, en bon moment, le bon moment, d'opérer la réconciliation entre les Rwandais. Or, les... gentils montent au pouvoir dans la période des années 60, donc 62 à l'indépendance. Ce sont des gens qui vont être appuyés plutôt par l'Église, mais l'Église dans le sens de garder une certaine influence quand même dans la gouvernance du pays. Or, si l'Église avait pris sa distance, avait fait son travail d'évangélisation, je dirais son travail de l'évangile, qui est l'évangile, qui est cette bonne nouvelle. Elle aurait eu la sagesse vraiment de commencer à enseigner au niveau de la population une vraie réconciliation, mais aussi d'inciter aussi le pouvoir public aussi à une vraie réconciliation. Et là, l'Église a manqué, en tout cas, à ses responsabilités.
Est-ce qu'on peut parler de compromission avec le pouvoir dans cette façon de réagir ?
Je pense que oui et non. C'est très difficile à dire, c'est subtil quand même. Mais quand même, quelque part, parce que l'Église n'a jamais condamné catégoriquement, par exemple, les persécutions des Tutsis qui interviennent depuis 1959, jusque même au génocide. Il y a eu des moments de ce qu'on appelle des révolutions où l'on tue, où l'on mange les vaches, où l'on brûle les maisons, mais les églises ne demandaient que la pacification, la paix éphémère, mais sans vraiment toucher la chose et sans en tout cas exiger du gouvernement de mettre le problème sur la table pour chercher une solution à long terme.
En fait, c'est là qu'on peut poser la question de la dimension prophétique, du message prophétique de l'Église, et qu'à l'époque du génocide, en tout cas dans pas mal d'endroits, a été lancée cette accusation de manque de vision prophétique dans ce qui s'était mis en place au Rwanda. Pourtant, si je ne me trompe, le Rwanda était quand même un pays considéré comme un pays à forte majorité chrétienne. Et j'entends par chrétien catholique, mais il y avait aussi un nombre important d'églises protestantes de toutes sortes et ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire que c'était une population qui n'était pas sensibilisée au message évangélique. Est-ce que ça veut dire que le message évangélique qui était prêché était un message timoré ou qui occultait certains aspects propres au message du Christ ?
Je pense que quand même, cette question-là aussi est intéressante parce qu'elle renvoie peut-être à un travail aussi de recherche sur le sens de la mission chrétienne au Rwanda. Est-ce que les gens ont été convertis au christianisme, vraiment dans la foi de conversion, ou ils ont adhéré ? Et je pense que l'étude approfondie sur le Rwanda peut montrer qu'à un certain moment, les enjeux politiques ont obligé la population à adhérer. Parce que si on regarde la période qui va jusqu'en 59, c'était une période aussi avec des travaux forcés un peu. Et à ce moment-là, pour échapper au travail de force, Il fallait qu'on soit converti, ou bien chez le protestant, ou bien chez le catholique, et le missionnaire pouvait te protéger contre le chef. Si le chef, lui, avait l'obligation, par exemple, de faire des travaux, de donner en tout cas des travaux, exigés par son supérieur qui était le gouvernement. Donc, là, ça pose vraiment la question de la qualité, et du sens aussi de l'évangile et de ce qu'on appelle la conversion en tout cas dans cette période-là.
Évidemment, nous devons toujours bien rappeler à nos auditeurs que lorsque l'on parle de cette période, il est évidemment aisé a posteriori de faire un travail d'étude, de recherche pour voir les mécanismes qui ont conduit à, et que ce n'est pas une vision de jugement, mais c'est plutôt essayer de relire le passé, les mécanismes, pour éviter que ça puisse se reproduire. Je crois que c'est important de le rappeler, parce que c'est un sujet tellement sensible, d'abord parce que toutes les personnes qui ont été missionnaires ou à l'époque coloniale sont hyper sensibles par rapport à ce sujet, parce que la plupart sont allées de bonne foi et avec tout leur cœur et ont donné le meilleur d'elles-mêmes, et ne sont pas toujours prêtes à entendre la moindre critique sur ce qui a été fait à cette époque-là, et puis aussi parce que la suite de l'histoire a montré que depuis la fin des colonies, il y a eu aussi des tas de choses qui se sont passées, qui n'a pas été tellement plus propice pour les populations. Alors, peut-être que dans cette dernière partie de l'émission, on pourrait peut-être aborder la question de la place des églises aujourd'hui. Tout ce que vous avez évoqué, étudié, et sur lequel vous avez pu faire émerger un certain nombre d'aspects qui auraient peut-être pu faire la différence, est-ce que l'on peut imaginer maintenant, ou est-ce qu'on peut dire que maintenant, les églises ont pris conscience de cela et ont une approche différente? Est-ce que les églises sont des instruments qui peuvent vraiment changer les choses dans un pays qui a vécu un tel drame que celui qu'a connu le Rwanda?
Cette question est très intéressante et je pense que je dois aussi revenir un peu en arrière. Dans l'aspect de l'évangile au Rwanda, on peut trouver aussi un autre aspect que je n'ai pas évoqué, mais que je traite dans ce livre-là, ce qu'on appelle la théologie du ciel. La théologie du ciel, c'est quoi? La théologie du ciel, c'était une théologie qui était plutôt, et qui est développée aussi aujourd'hui, et qui m'amène aussi à une crainte, qui dit que les choses qui se passent sur la terre n'intéressent pas l'homme de l'Église. Il faut plutôt travailler pour le paradis. Et là, c'est un discours, c'est une façon de présenter l'évangile sans responsabiliser quelqu'un. Et là, c'est vraiment dangereux. Et je pense aujourd'hui, on voit des églises au Rwanda qui s'attellent vraiment au développement du pays, et qui essaient de travailler pour la réconciliation. Il y a des mouvements de réconciliation au sein des églises, mais aussi dans la société civile. Mais malheureusement, ce que je crains, c'est que aussi, après le génocide, il y a eu d'autres mouvements d'églises que des églises traditionnelles qui sont là et qui sont une sorte, je dirais, vraiment de concurrence, mais aussi d'aveuglement aussi pour les gens, qui risque de continuer à véhiculer cette dimension-là de l'Évangile et qui travaille uniquement pour le paradis, sans responsabilité sur la terre. Et c'est là où je pense que la dimension universaliste de l'Église dont nous avons parlé doit jouer. Les partenaires occidentaux doivent aider, en tout cas, les églises du Rwanda, de l'Afrique en tout cas en général, pour que cette dimension-là de l'évangile dans sa dimension de responsabilité ne soit pas oubliée. Et là, je sais qu'il y a des églises, dont l'église presbytérienne au Rwanda, mais je pense aussi l'église catholique, qui travaille vraiment pour le développement, pour la réconciliation, pour favoriser en tout cas tout ce qui pourrait mettre fin à ces divisions de l'époque qui sont à l'œuvre. Et là, je pense que c'est un espoir qui doit être soutenu aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette question vraiment de relations Nord-Sud.
Mmh. Souvent, de notre côté, en tout cas du côté occidental, lorsqu'on regarde cette situation qui se passe au Rwanda, on a tendance à dire, mais voilà, il doit y avoir un travail de réconciliation qui doit se faire, et quelque part, on se dédouane un peu facilement aussi du rôle qu'on a pu jouer là-dedans. Mais est-ce que les églises actuellement sont en mesure de prôner un message de réconciliation. Or, dans une dimension chrétienne, réconciliation présuppose qu'il y a reconnaissance, qu'il y a rupture au sein de la relation, et je dirais presque dans une démarche de pardon qui devrait pouvoir se faire, qui est une des étapes dans un processus de réconciliation, il y a cet impératif de reconnaître qu'il y a eu faute et de reconnaître qu'il y a eu, qu'il y a matière à demander pardon, ce qui est un sujet hyper sensible à l'heure actuelle. Est-ce que les églises sont en mesure d'apporter un message spécifique par rapport à cette dimension-là aujourd'hui? On entend souvent dans les médias, et en particulier les médias au Rwanda, c'est toujours on renvoie la balle à l'autre. On est encore dans cette phase où chacun voit chez l'autre la plus grosse partie des responsabilités. Est-ce que les églises ont là une possibilité de jouer un rôle?
Je pense que franchement, j'y crois. Et c'est l'une des choses que je développe dans ce livre, c'est que les églises, et je dirais même l'homme, aussi bien d'Afrique que de l'Occident, ont un rôle à jouer dans la réconciliation. Et là, je pense que les églises doivent en tout cas confesser quelque chose. Le silence est quelque part, mais aussi le manquement, je pense, le demander pardon fait peur parce que ça suppose des responsabilités après. Et je pense que le courage devait aller jusqu'à assumer cette responsabilité-là. Parce que sans passer par là, on construit sur du sable. Et je pense qu'aujourd'hui, les églises devaient s'asseoir, mais je dirais quand même au-delà des églises.
Eh bien, ce sera sur ce message d'espoir, et en tout cas cette interpellation aux églises, que nous allons clôturer cette émission. Peut-être juste en un mot, où peut-on se procurer votre ouvrage?
Je pense que le chemin le plus facile serait de prendre contact avec moi au numéro de téléphone, le 04-235-70-87 ou 04-173-72-04-64.
Et pour les auditeurs qui ont un accès à Internet, tous ces renseignements se trouveront sur le site de RCF très prochainement. Et je pense que dans un avenir proche aussi, les livres seront disponibles à la librairie Siloé. Amis auditeurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, un nouveau moment en votre compagnie.